73 morts, 125 blessés, dont 28 avec traumatisme. C'est le bilan officiel que vient de donner le directeur général de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC en sigle, après le déraillement du train marchandises survenu dans la nuit de jeudi à vendredi au village Kitena, dans le territoire de Louboudi, dans la province du Lualaba. Fabien Moutombe, directeur général de la SNCC, parle de certains facteurs à la base de ces drames, notamment les facteurs techniques, l'entretien du réseau ferroviaire et l'incivisme de la population qui monte dans ces trains de manière clandestine. Quelle lecture faire de cet accident? Que faut-il pour prévenir ce type de drame? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 14 mars 2022. Participe au débat Marc Manyanga Ndambo, directeur des infrastructures de la Société nationale des chemins de fer du Congo. Il coordonne l'équipe d'enquête en cours. Monsieur Manyanga Ndambo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Paul Kisimba, activiste de droits de l'homme et porte-parole du cadre des concertations de la société civile de l'Ikasi dans la province du Haut-Katanga. Paul Kisimba, bonsoir.
Bonsoir.
Et Lems Kamonia, économiste expert dans le secteur des transports. Lems Kamonia, bonsoir.
Bonsoir.
À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, vous nous suivez sous la 95.8. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiorokapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bonsoir et bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
73 morts, 125 blessés, dont 28 avec traumatisme. Je l'ai annoncé dans mon introduction. C'est le bilan officiel de l'accident du déraillement du train marchandises de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC en sigle. C'est le directeur général de cette société, Fabien Moutombe, qui le confirme. Il annonce que les enquêtes sont en cours en vue d'établir les responsabilités et promet des sanctions à l'endroit de toute personne impliquée dans cet accident. Il précise qu'à la base de ce drame, il y a les causes techniques, endogènes et exogènes. Fabien Moutombe a été joint par Guy Maté.
Ce que je peux avancer comme facteur qui est à la base de cette situation, il y a eu coupure brusque de la traction suite à l'échauffement de l'huile transformateur. Ça a causé un arrêt brusque et la loco s'est emballée. Au-delà de ça, il faut se dire que lorsque vous alignez une locomotive, la locomotive, une rame, elle a le barème de charge. Et lorsque les gens prennent d'assaut les personnes et leurs colis, ils augmentent le tonnage, ils augmentent le poids. Et en ce moment-là, il est très difficile que la loco qu'on a prévue pour tracter autant de tonnes puisse tracter une charge qui n'est pas prévue. Et cette question, elle est transversale, puisque l'accident que nous avons connu, ce n'est pas sur un train voyageur, c'est sur un train marchandise. Retenez un peu. Sur cette relation-là, c'est-à-dire l'espace Kasaï et le Katanga, nous avons 4 trains par semaine. Nous avons le Diamant de Luxe qui fait Lubumbashi Mweneditu 2 fois par mois. Nous avons l'Express Colombe qui fait 2 fois par mois Lubumbashi Kananga. Donc, il n'y a aucune raison que les gens puissent prendre un train marchandise.
Marc Manyanga Ndambo, vous êtes directeur des infrastructures de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC en sigle. Vous coordonnez l'équipe d'enquête en cours, enquête sur les déraillements du train marchandise qui a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi au village Kitena, dans le territoire de Louboudi. Nous sommes là dans la province du Lualaba. On parle de 73 morts, 125 blessés, dont 28 avec traumatisme. Le bilan a-t-il évolué ou il reste le même?
Oui, à date, le bilan reste le même. Heureusement d'ailleurs que vous l'avez bien précisé, parce que lorsqu'on a lu certaines informations sur les réseaux sociaux,
nous sentons qu'il y a un certain dérapage. Mais le bilan, c'est bien celui-là, et un bilan qui a été harmonisé par tous les acteurs qui étaient sur place.
De nos sources sur place, nous apprenons qu'il y a encore des wagons qui ne sont pas encore élevés. Il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres corps en dessous. Est-ce que vous confirmez cela, Monsieur Manyanga?
Oui, je confirme qu'il y a quelques wagons qui ne sont pas... Qui ne sont pas relevés, mais dire qu'il y a nécessairement des corps, ce n'est qu'une présomption qui n'est pas, qui pourra être confortée que plus tard. Mais à première vue, comme les wagons sont sur le ravin, on pouvait bien voir hein, les corps, parce que le ravin, il est sur un profil qui ne peut pas permettre qu'on les voit. De toute évidence, madame, tout s'est fait dans la transparence. S'il y a de nouveaux cas, on les signalera, parce que on n'est pas seul sur terrain.
Vous coordonnez l'équipe d'enquête en cours. Est-ce qu'on connaît déjà les causes réelles de cet accident?
Nous connaissons, lorsqu'il y a un incident, madame, il y a souvent deux approches. Hein. La première approche, c'est la cause présumée. Et cette cause présumée doit être confirmée après par des éléments complémentaires. Hein. Surtout qu'il s'agit d'une machine, il faut une autre expertise qu'on doit faire aussi au niveau de l'atelier. Je crois que ce que M. le DG vous a dit, c'est ce qui a été déjà retenu pour l'instant, mais nous continuons l'enquête parce que l'enquête, comme il vous a dit, a une dimension transversale. Il n'y a pas seulement les équipements de la SNCC qui sont concernés, mais il y a la présence de transport de passagers clandestins. Donc ce sont des choses pour lesquelles nous n'allons pas trop vite. Si on était parti trop vite du côté de Kanzenzelo là-bas, on n'aurait pas pu établir que la cause c'était les clandestins qui avaient touché au robinet des freins de sécurité. Donc c'est pour ça que nous y allons patiemment et il y aura un rapport complémentaire qui sera fait. Pour l'instant, vous retenez la cause présumée telle qu'elle vous a été présentée par les DG.
Marc Manyangandambo, déraillement du train marchandise, on dit bien que c'est un train marchandise. Comment ces passagers se sont retrouvés dans le train?
Oui, madame, lorsque vous faites une lecture de cette situation, elle présente pratiquement une triple dimension. Vous avez d'abord la dimension réglementaire et sécuritaire telle que M. le DG l'a évoquée. Vous avez la dimension socio-économique sur laquelle je vais un peu m'attarder parce que ce à quoi nous assistons, c'est vraiment un exode urbano-rural vers ce qui semble devenir comme Eldorado. Il faudra qu'on le sache. Hein, vous avez des passagers qui partent de Kaminakabongo vers même Tinké. Vous en avez d'autres qui partent de Mwenedi, Touloupoutambujima, Ikabinda, tout ça. Enfin, le premier groupe, c'est l'espace Katanga. Le deuxième, l'espace Kasai. Je vous dis même qu'il y en a même qui partent de la province de Kwilu en passant par Ilebo. Toujours à la recherche de ces Eldorado. Là. Alors, on assiste véritablement à un mouvement massif de la population sur des trains marchandises, et ce qui est curieux, c'est que nous connaissons ces cas justement sur les axes où certains trains voyageurs sont en train de passer. Donc, cette dimension socio-économique, nous devrons absolument ne pas l'analyser de façon binaire, simpliste. Hein. Il faut que nous puissions l'analyser, comme disait tout à l'heure le DG, de façon transversale pour éviter justement que ces drames ne puissent se répéter à l'avenir.
Oui, mais pourquoi vous pouvez accepter que des passagers clandestins montent à bord du train, Monsieur Marc Manyanga, il n'y a pas de contrôle qui se font?
Madame, si vous les appelez clandestins, et nous les appelons clandestins justement, parce que, un, ils montent dans des véhicules appropriés, deux, ils n'ont aucun lien contractuel avec l'entreprise, parce que le lien contractuel, c'est un billet. Revenons au cas de figure qui nous concerne. Et vous allez remarquer que la plupart de ces situations, nous les connaissons souvent de nuit. Lorsque vous voyez le cas de figure qui nous concerne, on a affaire à une rame de train qui avait les wagons vides, la plupart, qui allait vers Lubumbashi, qui est un des points de chargement les plus importants. Une partie des wagons vides devait être chargée pour TFM du côté Fumuru, mais une autre vers Lubumbashi. Alors, lorsque vous regardez même la rame, il y avait une voiture qui était chargée de contrôler, d'empêcher que ces transporteurs clandestins ne puissent monter. Ils ont fui, certainement, pour aller attendre les trains plus tard, parce que la gare où ils étaient contrôlés, c'était une gare de visite. Ils ont certainement fui pour aller plus loin. Et comme au départ de la gare, il y a une petite montée, et c'est là qu'ils sont montés la nuit. Mais malheureusement,
il y a
avant
pas de contrôleur.
Le deuxième contrôle, l'incident est arrivé.
Il n'y a pas de contrôleur dans les trains ou tout au long du chemin de fer?
Non, attention, ici, ce n'est pas un train voyageur. Hein. C'est dans les trains voyageurs qu'il y a des contrôleurs parce que nous avons vendu nos billets. Mais ici, dans les trains marchandises, il y a, c'est un train qui, normalement, ne doit pas avoir des passagers. Mais pour lutter contre cela, nous avons mis des équipes d'interception qui sont mobiles. Et nous avions déjà écrit la lettre, la direction générale de la SNCC avait écrit la lettre que le phénomène étant environnemental, il fallait que nous puissions aussi bénéficier de l'appui de toutes les autorités politico-administratives, et j'ajoute même militaires aussi, nous allons y revenir plus tard. Donc, dans les trains, il y a des équipes mobiles qui sont là pour contrôler ces situations. Mais là, on les contrôle dans la gare de Luena, madame, je ne sais pas si vous voyez la position de la gare de Luena, et le train est en train de partir vers Tenke. Alors, ils fuient là-bas, ils vont plus loin pour aller monter sur les trains. Alors là, il faut un deuxième contrôle. Malheureusement, à ce niveau-là, les phénomènes arrivent. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut dire aux voyageurs, continuez à monter sur les trains, parce que quand vous serez contrôlés, on pourra vous protéger, ou il faut leur dire qu'il faut qu'ils respectent la police des chemins de fer, qui prescrit que tout passager ne peut pas entrer dans un véhicule non approprié comme un wagon.
Ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre de drame. L'année passée, c'était dans la province de la Tchopo, un train marchandise sur la voie ferrée reliant la ville de Kisangani au territoire d'Ubundu avait fait un déraillement. Il y a eu aussi plusieurs morts et blessés. Parmi les causes, on avait cité la surcharge et les passagers clandestins. On s'imagine que des mesures avaient été prises pour éviter cela, mais aujourd'hui, on tombe encore dans ce même drame. Est-ce qu'il faut dire que la question est gérée avec, vous allez m'excuser les termes, avec légèreté?
Non, madame, je ne vous excuse pas les termes. Hein. Je crois qu'un dialogue, pour qu'il soit franc, sincère et qu'il soit porteur de bonnes résolutions, il faut qu'on soit franc, comme vous le dites là. Parce que, comme je dis, pour mettre fin justement à ces drames, nous ne devons pas l'analyser de façon binaire, de façon simpliste. Nous devons voir les acteurs principaux qui sont en face de nous. Et si vous voulez, les acteurs principaux, je peux vous les citer sans complaisance. Il y a bien sûr la SNCC, parce que tout à l'heure vous avez suivi le DG, il a parlé même des éléments endogènes. Il y a l'État congolais, il y a la société civile, bien sûr, qui représente les usagers des trains, et vous avez les forces de sécurité. Et il ne faut pas qu'on puisse se voiler la face, parce qu'on a, quand ce qu'on dit, c'est véritablement un fléau lorsqu'on voit cet exode massif. Pourquoi il y a cet exode massif? Si nous faisons une analyse simpliste, on ne va jamais trouver de solution. Hein? Vous avez là, on est face à un caractère attractif pour certains milieux et répressif pour d'autres. Il y a des gens qui vivent dans certains milieux où ils croient qu'il faut aller plus loin. Ce que j'ai appelé des Eldorado, là. Ils vivent dans un milieu où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de possibilité d'emploi. Alors ils sont prêts facilement pour se sacrifier même leur vie pour aller vers ce fameux Eldorado. Il faut les entendre, il faut les interroger. Même lorsque ils ont la mort devant eux, ils disent « ça c'est leur tour, ils ne vont pas se fatiguer pour aller ». Alors lorsqu'on est face à une pareille témérité, l'approche ne doit pas être simpliste. Il faut que tous les acteurs puissent être impliqués. C'est pour ça que nous pensons, nous, que dans les approches qu'il faut envisager justement, la première approche qui est d'ailleurs l'option la plus idoine, hein, parce que souvent les DG de la SNCC a toujours dit voilà une des approches qui peut essayer de nous aider dans la marche que nous faisons pour la lutte contre ces fléaux, c'est cette conviction profonde que lorsque le gouvernement a levé l'option de la promotion du développement à la base au niveau de 45 territoires, ça pourrait permettre que les gens puissent trouver sur place ce qu'ils veulent aller chercher ailleurs au prix de leur vie. Et en plus, il faut qu'il y ait l'implication réelle de tous les acteurs qui ont été cités. Vous voyez, tout le monde essaie de s'émouvoir lorsqu'il y a des morts, morts d'hommes. Nous avons tous la compassion. Mais il faut que nous puissions vraiment nous impliquer. Il y a une idée qui nous vient à l'esprit comme ça, parce que dans les temps, madame, vous me suivez?
On vous suit.
Voilà, une idée me vient à l'esprit. Dans le temps, lorsque il y avait des problèmes sur la campagne agricole, hein, sur l'évacuation de produits agricoles, tout ça, il y avait le principe d'une conférence agricole qui réunissait la SNCC avec tous les gouverneurs des provinces desservies par les zones à vocation agricole. Pourquoi on ne penserait pas aussi à une conférence annuelle sur la sécurité ferroviaire, où chaque fois que l'opportunité l'exige, hein, la question est plus complexe que vous le pensez, madame. Quand vous prenez les cas de figure présents, parmi les cas qu'on a trouvés, vous trouvez par exemple 46 feuilles de route dans un train. Ici, nous connaissons bien, connaissons la bravoure de nos forces armées et les efforts qu'ils font pour la défense de la patrie. On ne va pas aujourd'hui responsabiliser les autorités à ce niveau-là. Merci. Il y a des brebis galaises aussi qui sont là. Il est grand temps qu'on pense à un cadre de concertation urgent qui réunirait la SNCC et les provinces qui sont déterrées par les rails pour qu'on prenne quand même des mesures afin d'enrayer ce fléau qui en est véritablement un.
Paul Kisimba, activiste de droits de l'homme et porte-parole du cadre des concertations de la société civile de l'Ikassi dans la province du Haut-Katanga. Quelle lecture vous faites de cet accident? Est-ce qu'on aurait pu l'éviter?
Merci beaucoup, Madame Kéline Kouté. Effectivement, comme vous venez, je salue à la Radio Capi pour nous avoir fait intervenir à ces niveaux. Je remercie les intervenants de tout à l'heure, notamment le DG Fabien Mutombe et Monsieur Marc Manyanga. Il y avait moyen d'éviter ceci. Dès que vous suivez seulement Monsieur Marc Manyanga, ce n'est pas la première fois et Madame Kéline Kouté vous l'avez dit. Il y a déjà eu ce genre de cas sur cette voie de la SNCC. Il y a plusieurs causes, évidemment. Hein. Il y a même la vétusté des locomotives. N'est-ce pas, quand nous avons suivi les DG Fabien Mutombe, il y a eu surchauffe, n'est-ce pas, le transport a chauffé. Et puis finalement, vous savez, c'est une histoire de presque 105 tonnes, cette locomotive-là. Ça chauffe et ça commence à faire demi-tour, ça recule et directement ça renverse les wagons qui sont sur la rame. Alors, en ce moment-là, cette histoire de vétusté des locomotives, est-ce que c'est aujourd'hui qu'on en parle? Nous, au niveau de la société civile, nous avons toujours recommandé qu'on puisse bien acheter les choses qu'on achète pour nous transporter et tout ça. Quand vous allez acheter des choses de seconde main, vous retombez sur des situations comme ça. C'est une locomotive électrique et qui a aussi ses exigences. Alors, quand vous avez demandé si on pouvait l'éviter, oui, on pouvait l'éviter parce qu'on devait déjà penser à l'outil de travail. L'outil de travail est vétuste. La voie même est vétuste. Alors, il y a cette histoire de la surcharge que M. Manyanga vient d'évoquer. Il y a l'exode. Il y a un exode massif de nos frères qui quittent les Kassai pour venir au Katanga et qui montent clandestinement sur ces trains marchandises. Ils sont à un endroit où ils ne devraient pas se retrouver. Mais que fait la police de la SNCC, communément appelée CORSU, le corps de surveillance, comme ce n'est pas la première fois? Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire mieux parce que ces gens, quand ils embarquent, quand ils montent sur ces trains marchandises, sur ces wagons où ils ne devraient pas se trouver, partout ils passent parce qu'il y a des gares un peu partout. On n'est pas en train de les voir. Comme M. Manyanga l'a dit, c'est vrai, la responsabilité est partagée. Celle de la SNCC d'abord, par rapport au corps des surveillances, n'est-ce pas, le CORSU et la police de la SNCC qui devait assurer ce travail pour faire descendre ces voies. Et ces gens-là, ces gens viennent pourquoi? C'est la misère. On ne peut pas se voiler la face. C'est la pauvreté. Ils pensent qu'il y a mieux de l'autre côté. À cause de la misère, ils doivent mourir comme ça, comme des animaux. Hein, plus de 73 morts, qui est encore un bilan provisoire.
Selon M. Manyanga, il n'y a pas seulement ceux qui viennent de l'espace Kassai, mais aussi dans l'espace Katanga, il y a des gens...
Affirmatif. Il y a ceux qui viennent de l'espace Kassai pour aller, et ceux qui viennent de l'espace Katanga. Tous ces gens en train de chercher le bien-être et tous se résument par la pauvreté. Parce que ce qu'ils fuient là-bas, c'est la pauvreté. Ils pensent qu'ils trouvaient mieux là où ils sont en train d'aller. Mais ici, comme nous sommes en train de parler de la SNCC qui les transporte finalement, même si ce sont des clandestins, c'est à la SNCC d'assurer, n'est-ce pas, le moyen de faire descendre ces gens en instaurant vraiment une véritable discipline qui n'existe pas.
Pour vous, la faute, la responsabilité première incombe à la SNCC. Mais vous, société civile, puisque vous avez fait
Madame Kéline.
Oui, on vous
Madame Kéline, je m'excuse. Si vous avez un camion à vous, et sur ce camion, il y a des enfants qui commencent à monter et tout ça, et puis après, parmi ces enfants là-bas, il y a des enfants qui meurent et tout ça. quand on va venir établir la responsabilité et qu'on sort, on viendra vous chercher, comment est-ce que vous allez avec votre engin, vous n'avez pas un mécanisme de contrôle et tout ça. C'est pourquoi, en premier lieu, nous mettons d'abord la SNCC, surtout que c'est pas la première fois. Si c'était au moins la première fois, on allait dire, bon, c'est à cause de la première fois, ils n'ont pas pris des dispositions. Mais ce sont des cas récurrents, ça vient souvent.
Alors, selon Fabien Moutombe, DG de la SNCC, c'est une question transversale. Elle touche la SNCC, c'est vrai, mais elle touche aussi le pouvoir public et la population congolaise.
Affirmatif, je suis tout à fait d'accord avec lui, autant M. Marc Manyanga. C'est transversal, effectivement. Moi, j'ai placé d'abord la SNCC en premier lieu parce que propriétaire de toutes ces rames là-bas, parce que la SNCC distingue bien ses trains. Il y a les trains courriers et les trains marchandises. Maintenant, comme chaque fois qu'il y a les trains marchandises et ces gens préfèrent parce qu'ils n'ont pas l'argent pour se payer les billets pour prendre les trains courriers, ils préfèrent ces wagons-là, même vides, pour charger leurs propres marchandises. Quand vous allez remarquer sur les lieux d'accident, ce sont des sacs d'huile, de ceci, c'est des commerçants, entre guillemets, qui viennent aussi pour profiter de la gratuité, entre guillemets, parce que là-dedans, si l'enquête est sérieuse, vous allez trouver même la complicité de certains agents qui monnaient pour voir ces gens passer dans des wagons. Vous voyez un peu, l'État congolais, bien sûr, c'est l'État qui fait que ces gens se déplacent d'un coin à l'autre, que ce soit l'espace Kasaï, que ce soit l'espace du Katanga profond. Les gens qui sont en train de vouloir venir du côté, soit de Likasi où je me trouve présentement, ou bien de Lubumbashi, afin de trouver mieux, entre guillemets, ils pensent le faire, ça c'est l'État congolais qui devrait voir. Quand ça passe, quand tout ceci se passe, parce que ce n'est pas la première fois qu'on voit ces vagues de gens qui passent, où se trouve l'État en ce moment-là? On est tous en train de regarder impuissants. Quand bien même au niveau de la société civile, on a crié pour dire, regardez un peu ce qui se passe là-bas. Il y a un exode massif des gens qui sont en train d'émigrer de l'autre côté vers ici. L'État est en train de regarder juste comme ça. Donc, cette responsabilité à ce niveau là-bas. Nous allons condamner les personnes qui sont en train de s'émouvoir. C'est la misère, Madame Kéline Kouté. La pauvreté. Lorsque vous êtes dans la misère, vous pensez que vous allez trouver mieux ailleurs. Bon, comment condamner des gens qui ne savent pas survivre là où ils sont dans leur propre milieu, il n'y a rien.
Vous, société civile, Paul Kissimba, est-ce que vous n'avez pas ce rôle d'éduquer la population congolaise sur les risques de prendre ces trains marchandises, ou bien vous limitez juste à dénoncer? Est-ce que vous n'avez pas ce rôle-là aussi d'éducateur?
Tout à fait, Madame Kéline, je suis d'accord avec vous. Notre rôle en tant que société civile, c'est d'éduquer, nous le faisons. Nous sommes en train de le faire, mais nous faisons ce rôle à qui? C'est comme, vous le savez, un ventre affamé n'a point d'oreille. Quelqu'un qui mange pas, vous commencez à l'éduquer. En ce moment-là, la personne devient un peu sauvage. Le comportement change du coup, du fait de cette cause-là. Ici, c'est la famine, ne nous voilons pas la face. C'est pourquoi ici nous sommes en train d'indexer l'État congolais. Mais sinon tout le monde le sait que monter sur un tel train marchandise, d'abord c'est inapproprié, ça peut créer des problèmes comme ça a été le cas que nous déplorons ici. Les gens le savent. Mais quand vous êtes face à une situation où vous êtes désespéré, c'est dans les désespoirs, vous voyez que les gens normaux, madame, peuvent aller dans des conditions comme ça. Dans les désespoirs, ils commencent à faire n'importe quoi. Sinon au niveau de la société civile, on essaie de faire notre travail, mais il faut que l'État s'assume pour Merci. Essayer de mettre la meilleure manière de vivre un peu partout. Je crois que M. Marc Manyanga l'a dit quelque part. Si vraiment la vie devient précaire à tel endroit, ne vous en faites pas, même dans l'ancien temps, les gens bougent.
Lems Kamania, vous êtes économiste expert dans le secteur de transport. Votre lecture sur ce déraillement du train marchandises qui a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi au village Kitena, dans le territoire de Louboudi.
Oui, merci Kéline Kouté pour m'avoir passé la parole et aussi pour m'avoir fait participer dans cette émission. Ça fait longtemps que je suis intervenu sur vos ondes. Généralement, dans les transports, lorsqu'il y a un accident, on examine trois causes ou trois facteurs qui sont souvent à la base des accidents. Les premiers facteurs, c'est généralement les facteurs humains. On regarde, est-ce que l'accident est tributaire d'une défaillance humaine? La défaillance humaine ne peut pas seulement être limitée au conducteur de la locomotive, mais la défaillance humaine aussi concerne l'organisation de tout un convoi qui a été organisé. Ça, c'est le premier facteur humain qu'on met souvent en cause lorsqu'il y a un accident ou un déraillement d'un train. Le deuxième facteur, c'est un facteur technique qui est lié à l'état de l'équipement. Ici, on peut regarder est-ce que la locomotive ou même les wagons qui sont là étaient en bon état technique pour pouvoir rouler sur la voie. Et ça aussi, ça peut être une cause qui peut créer un accident. Et enfin, le troisième facteur, il est aussi technique, mais lié à l'état de la voie. Est-ce que la voie sur laquelle la rame ou le train est en train de rouler est-elle en bon état pour éviter qu'il y ait un tel accident? À suivre le directeur général de la SNCC dans ce qu'il vient d'expliquer, je crois que cet accident, il est bien clair que c'est le facteur humain qui est à la base. Parce que en les suivant, il nous dit, voilà, il y a eu un problème de l'huile dans les transports, il y a eu chauffage, la locomotive s'est emballée. Et quand il évoque tout ça, on comprend que s'il y a eu un problème de l'huile, ceux qui ont préparé que ce train puisse partir, s'il y a un problème de transformateur qui s'est posé au niveau de la locomotive, c'est-à-dire on a affaire à une locomotive qui n'a pas été bien préparée avant qu'elle soit lancée sur la voie. Là, ça pointe la responsabilité humaine. Et dans son commentaire, il dit il est possible aussi qu'il y ait un problème de surcharge. Là, une fois de plus, c'est un problème qui est lié à l'organisation. Comment pouvez-vous lancer sur la voie une rampe tant que vous savez que la charge que nous mettons, elle est presque à la limite du seuil qui est tolérable. Alors, en ce moment, personnellement, je pense que les facteurs humains prédominent par rapport à d'autres facteurs. Parce que c'est même ces facteurs-là qui a fait que aujourd'hui qu'on puisse peut-être dire c'est la locomotive où on va le faire. Je crois qu'au niveau de la SNCC, ils ont toutes les données. Ça a été une défaillance au niveau de l'organisation de ces convois.
Vous pensez donc que comme Paul oui. qui estime que le premier responsable, c'est la SNCC?
Bien sûr, madame. Le premier responsable, c'est la SNCC. Quand vous dites, écoutez, il y a les transformateurs qui a posé des problèmes, la locomotive s'est emballée, il n'y a pas eu assez d'huile, des choses comme ça, mais écoutez, il y a quelqu'un qui a pu, ce n'est pas n'importe qui organise des convois, c'est la SNCC qui doit être pointée du doigt en tête. Pour moi, c'est clair que c'est un problème, c'est un facteur humain, c'est un facteur lié à la gestion de ces convois au niveau de la SNCC où tous les paramètres techniques n'ont pas été passés au peine fin avant de pouvoir libérer cette locomotive qui a connu ce déraillement. Il n'y a pas à aller par quatre chemins, commencer à suppliquer ou peut-être il y a un clandestin qui a appuyé sur un robinet qui a fait que l'huile puisse... Non, je crois qu'il y a vraiment... C'est les facteurs humains qui sont à la base de ce déraillement. Et la responsabilité doit être portée en premier lieu par la SNCC pour qu'elle soit de plus en plus vigilante au moment où elle organise ses convois, au moment où elle lance les locomotives, surtout si on sait que ces locomotives qui sont vétustes, c'est des locomotives qui ont parfois certains problèmes, on doit les surveiller à tout moment. Même alors, vous savez bien, ces locomotives-là, elles ont quand même des tableaux de bord. Et l'huile dans un transformateur, c'est un des périmètres qui est regardé sur les tableaux de bord. On ne peut pas... Il y a quand même des conducteurs dans la locomotive qui doivent s'assurer que non, tel indicateur est au rouge, il faut que je puisse freiner. On ne peut pas dire que c'est arrivé comme ça brusquement, la locomotive va commencer à s'emballer. Peut-être au niveau technique, au niveau des ateliers, avant de lancer la locomotive, se sont rendus compte que toutes les conditions n'étaient pas réunies. Pour moi, c'est bien clair que c'est la responsabilité humaine qui doit être mise en avant et la responsabilité de la SNCC doit être totalement établie par rapport à ces déraillements.
Mais on peut parler aussi du facteur technique, l'EMS Camoigna. Lorsque vous parlez, par exemple, de vétusté, de l'équipement, de la voie ferrée...
C'est le facteur humain qui fait en sorte que les techniques qui est liées à l'état de la locomotive s'en trouvent aussi influencées. Imaginez-vous, si j'ai une locomotive qui n'est pas en état de rouler, si j'ai une locomotive qui son transformateur avale de l'huile ou bien fait perdre de l'huile, pourquoi je peux m'attarder à la mettre sur la voie, à la lancer sur la voie? C'est là qu'il y a le problème. Il a expliqué qu'il y a presque quatre rotations qui sont organisées. Bien sûr, je vais arriver au problème des clandestins. Mais tout est lié au départ au niveau de la préparation. Est-ce que la préparation de ce convoi s'est fait normalement? Est-ce qu'il y a des fiches qui ont assuré que cette locomotive était en état de pouvoir rouler et faire le parcours pour lequel cette locomotive a été alignée? Est-ce que dans cette locomotive, il y a un tableau de bord qui permet de contrôler notamment tous ces indicateurs liés à un paramètre essentiel comme l'huile dans les transformateurs? Ça, c'est autant de questions techniques qui montrent que, quelque part, peut-être le travail n'a pas été fait à la hauteur de ce qui devrait être fait avant de pouvoir libérer cette locomotive. C'est pourquoi, moi, je pointe du doigt la responsabilité de la SNCC dans ce déraillement, tel que le DG lui-même a expliqué, il a reconnu, il a dit qu'il y a eu cet emballement de la locomotive, il y a eu ce problème d'huile dans les transformateurs, il y a eu cette surchauffe. C'est-à-dire, tous ces paramètres sont liés à l'état de cette machine qui a été lancée. Il ne pouvait pas être lancé sur les réseaux.
Que faut-il pour prévenir ce type s'occupe des drames. C'est la deuxième partie de notre émission. Les auditeurs, ils sont nombreux à faire des propositions pour éviter ces genres d'accidents. Alors on va les prendre parce qu'ils sont très nombreux à appeler sur notre standard. Marc Manyanga, on va prendre pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga.
Des morts de plus que nous enterrons. En fait, avec un chemin de fer vieux de ses 112 ans, des locomotives et des wagons vieux de 70 ans, les voyages par temps présentent beaucoup de risques d'accident actuellement en RDC. Et pour tenter de remédier à ça, je propose quelques pistes. Il y a d'abord le renouvellement de locomotives et wagons, la maintenance du réseau ferroviaire, par la réactivation du service de cantonnage. Il y a aussi l'interdiction par la SNCC pour les passagers d'embarquer dans le train marchandises. Il faudrait qu'il y ait régularité du train de passagers. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays africains, les gens se déplacent à travers le train à grande vitesse, le TGV. Beaucoup de pays africains en ont, et pourquoi pas la RDC. La main d'œuvre qui doit être motivée, les agents, ils doivent vraiment être bien pris en charge afin qu'ils puissent donner les meilleurs d'eux-mêmes pour que l'entreprise puisse assurer un bon service.
Marc Manyanga, que pensez-vous de ces propositions de Patrick Kiazadi qui nous a appelé depuis Lubumbashi, brièvement?
Oui, les propositions sont toujours les bienvenues, mais il faut les adapter au contexte dans lequel nous nous trouvons. Vous dites que je puisse aller brièvement, mais il y a quand même des choses sur lesquelles il faut apporter un certain éclairage. Hein.
Allez-y.
Parce que tout à l'heure, là, j'ai entendu, je crois, M. Lems Kamonia qui a rattaché la surcharge dont parle le DG au fait qu'il y ait des passagers dans la rame. Non, la surcharge, elle est attachée à la dérive. Parce que lorsqu'il y a eu dérive, la quantité de mouvement est d'autant plus importante que vous avez la charge qui est supérieure à celle qui a été prescrite. Lorsque vous voyez les barèmes du train, le train est parti de l'UN avec 496 tonnes, alors que si cette relation est pour 680 tonnes. Donc les agents ont bien vérifié la situation du train. Nous avons dit ici que la cause qui était présentée, c'était la cause présumée, donc qu'il y aura la cause définitive, qui va aller jusqu'au niveau des ateliers. De toutes les manières, une lettre a été faite au niveau du gouvernement pour un rapport complémentaire. Et donc, si il y a une responsabilité, on ne l'exclut pas. C'est pour ça que le DG vous parle de cette possibilité de responsabilité endogène et exogène. Mais j'ai comme l'impression que souvent nous déplaçons les problèmes. Parce que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est cette histoire de mort d'homme. Si ce passager était dans un train voyageur, il n'aurait pas connu ça. Parce que les voitures à voyageurs, ils ont quand même un niveau de sécurité que les wagons n'ont pas. Ah, je reviendrai sur ça après, mais je réponds à l'auditeur qui est intervenu tout à l'heure. C'est vrai que le chemin de fer a été posé depuis très longtemps, du côté de Kindus depuis 1906, du côté vers les Kassai et tout ça, vous êtes vers le 1933 et tout ça. Mais je n'aime pas beaucoup des a priori qui sont basés sur des choses qu'on n'a pas vues. Aujourd'hui, nous sommes sur de matériel 40 ou 29 kilos, il y a des endroits qui ne sont pas bons, il y a des endroits qui sont mauvais. Il est évident que sur 3641 kilomètres de voie aujourd'hui, vous avez à peu près 1488 qui ne sont pas en très mauvais état. Mais si vous voulez renouveler 1458 kilomètres, c'est notre souci. Il vous faut 1,5 milliard de dollars. C'est pratiquement l'argent que le Fonds monétaire international a donné pour les pays. Donc, les chemins de fer, ce n'est pas une histoire où on doit spéculer. Je crois que Monsieur Lems Kamonia qui me suit, il ne me donnera pas tort parce qu'il a fait un rapport de diagnostic au niveau de quand il était à copilote sur la SNCC. Donc, il y a des choses que nous devons examiner par rapport aux efforts qui sont attendus. Lorsque nous parlons de l'action de l'État, ce n'est pas seulement l'État congolais. En 2006, j'ai participé à une commission des infrastructures au niveau de l'Union africaine à Brazzaville. Tous les chemins de fer africains avaient relevé le fait que le patrimoine ferroviaire est un patrimoine qui relève de l'État, que les États puissent contribuer à 10% de leur PIB pour la maintenance des infrastructures. Ils ne l'ont jamais fait, c'est depuis 2006. On est revenu pour qu'ils puissent le faire ne fût-ce qu'à 5%. Ils ne l'ont pas fait.
Merci.
Donc les chemins de fer demandent quand même beaucoup de moyens. Et ça, je suis d'accord que ces plaidoyers sont soutenus par la société civile et par tous ceux qui interviennent. pour qu'on comprenne qu'il y a encore des choses qu'il faut faire. Mais est-ce qu'il faut arrêter les trains? J'ai dit non. Parce que les trains continuent à rouler et roulent à certaines conditions que nous n'aurons jamais le temps de débloquer tout à l'heure.
On va prendre cet autre auditeur qui nous appelle depuis Chikapa. Pour vous, Paul Kisimba.
Kundi Langue François, depuis Kasai, Chikapa à Mweka. C'est catastrophique avec la situation ferroviaire actuelle. L'état ferroviaire est dans un état très délabré. Ceci au vu et au sud des autorités de la SNCC, des provinces où passent les rails et du gouvernement central, qui fait qu'enregistrer les drames. Cette situation a été décriée sous Kabila, hélas, répétition sous Fouati. Qui sauvera les Congo? Le gouvernement intervient qui est pour enterrer et non prévenir les déraillements et des accidents. Comment les inspecteurs commis à la SNCC et les machinistes peuvent-ils autoriser les clients à bord d'un train marchandise? La vie humaine est sacrée. Nous interpellons le gouvernement central que cette triste nouvelle à la SNCC soit la dernière. Aucun entretien ferroviaire. Il faut voir les tronçons et les Bomweka. Trop de sable, trop de brousse.
Alors c'est un point de vue qu'il donne, cet auditeur qui nous a appelé de Chikapa. Paul Kisimba, qu'est-ce que vous en pensez?
Je crois que, merci Kéline Kouté, je crois que notre auditeur de Chikapa a totalement raison. Vous savez, je crois que c'est Stanley qui avait dit que sans les chemins de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Quand il déplore ça, c'est parce que, effectivement, c'est par la voie ferrée que nous sommes mieux transportés, on transporte beaucoup d'histoires. Mais regardez dans quel état, comme il vient de décrire, se trouve cette voie ferrée. Voilà pourquoi l'État doit beaucoup s'impliquer dans la réhabilitation de la voie ferrée. Sinon, on va beaucoup crier sur des drames qui nous arrivent, alors que l'État, comme M. Manyanga venait de le dire quelque part, tel que ça avait été décidé par rapport à la voie ferrée en Afrique, l'État doit vraiment mettre des moyens, de l'argent pour réhabiliter la voie ferrée et transporter correctement les communs du mortel qui voyagent souvent par train.
Lemse Kamoigna, on va prendre aussi pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis Bukavu.
Habamungu Balibouza de Bukavu. Paix aux âmes des compatriotes disparus dans ce drame, étant donné que le déraillement ayant endeuillé la République n'est pas occasionnel, mais une suite dans la succession des déraillements, la part des responsabilités de l'État congolais n'est pas à exclure. Pendant que sous d'autres étiers, on se débarrasse des vieux trains et des anciens chemins de fer, au Congo, nous nous en contentons. Si nos morts et blessés avaient des trains et rails de bonne qualité et au prix abordable, s'ils avaient des routes secondaires pour leur déplacement, la République n'aurait pas un si grand nombre de morts et blessés suite au déraillement des trains. Qu'attend l'État congolais pour doter à ses citoyens les infrastructures routières et ferroviaires de qualité? Doit-on toujours nous contenter d'enterrer les morts et d'assister les blessés?
Lems Kamoigna, qu'est-ce que vous pensez de ce que dit cet auditeur?
Cet auditeur a tout à fait raison. Je crois que ce problème a été soulevé aussi bien par M. Marc Manyanga et aussi appuyé par M. Paul Kisimba de la société civile. Parce que si nous voyons aujourd'hui l'état de la voie, si nous regardons aujourd'hui la poussée démographique et les besoins de mobilité des personnes, il faut qu'il y ait d'autres sources alternatives de déplacement que avoir seulement la seule voie ferroviaire qui est aujourd'hui considérée comme le moyen principal ou la seule issue possible qui est utilisée par la population, même ces personnes qu'on appelle clandestins. Parfois, vous trouverez que parmi eux, il y a des gens peut-être qui peuvent vouloir payer les trains normalement, mais ils savent pas arriver à le faire. Donc, nous ne pouvons pas occulter la responsabilité de l'État dans ces domaines. Donc, l'État, non seulement qui doit s'impliquer activement pour voir comment trouver des solutions pour la réhabilitation de la voie et doter la SNCC des équipements ferroviaires modernes, mais aussi l'État doit développer les autres voies alternatives de transport, notamment la voie routière. Aujourd'hui même, il y a la voie aérienne est déjà là, elle est un peu coûteuse. On n'arrive pas à développer, donc on a un secteur de transport qui n'est pas suffisamment développé et les seules alternatives qui restent, subissent une telle pression qu'elles savent pas le faire. Je crois que c'est vrai que la responsabilité du pouvoir public doit aussi être évoquée et qu'on arrive à trouver des voies et moyens pour que l'État investisse réellement dans le secteur des transports.
Alors, ce sont vos propositions
parmi les plaidoyers pour... qui ont toujours été faits. Nous connaissons que notre État a un problème de moyens. Ça coûte énormément cher investir dans le secteur des transports. Pourquoi ne pas aller vers ce qu'on appelle les financements innovants? Aujourd'hui, même dans les pays européens occidentaux, on voit des privés s'investir dans les financements des routes à péage. Et pourquoi pas des chemins de fer pour que l'État soit propriétaire de la voie? Parce qu'ici, chez nous, nous préférons tout laisser entre les mains de l'État et l'État qui n'a pas de moyens. Et voilà, les conséquences sont là. Il est temps vraiment de réfléchir sur les financements innovants, les mécanismes comme les BOT et autres, qui peuvent permettre que les privés viennent dans les secteurs et qu'ils investissent des voies alternatives pour arriver à régler ces problèmes.
Marc Magnang avait proposé tout à l'heure un forum sur la sécurité ferroviaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça sera votre conclusion.
Mais madame, combien de forums avons-nous déjà organisés dans ce pays? Les gens vont se retrouver dans des hôtels 3 ou 4 jours, ils vont manger. Les problèmes, les solutions sont là. Il a évoqué mon passage au COPIREP, c'est parmi les matières qu'on avait mises en avant. Quand je me rappelle, ça va faire aujourd'hui 15 ans qu'on a fait le diagnostic de la SNCC et qu'on devrait résoudre cette société. Et M. Marc Magnang est parmi les cadres les plus compétents qu'il y a de cette société. Et je me rappelle, dans les discussions, il partageait les pistes qui avaient été évoquées. Mais on a pris 15 ans de retard pour dire, allons vers des solutions courageuses. Aujourd'hui, tenir un forum, c'est bien bon, les gens vont en parler, mais le vrai problème, c'est qui doit investir dans les secteurs de transport, qui doit investir dans la voie, qui doit investir dans la construction des infrastructures de transport. Les réflexions sont là, les études sont là, elles sont multiples. Il faut que les pouvoirs publics se réveillent et prennent des décisions courageuses. C'est ce qu'on attend de l'État.
Merci, Lems Kamoigna. Paul Kissimba, votre conclusion, vous, qu'est-ce que vous proposez?
Merci beaucoup, madame. En 30 secondes, je dirais qu'il faut qu'il y ait renouvellement des locomotives, renforcement des mesures de surveillance pour éviter les phénomènes de clandestins et puis la maintenance de la voie existante par un système de cantonnage permanent.
Merci, Paul Kissimba. Marc Manyanga, votre conclusion.
Oui, je tiens d'abord à remercier le gouvernement de la République parce qu'il y a quand même un premier effort qu'ils ont fait en donnant la redevance logistique terrestre pour tant soit peu essayer de trouver des solutions pour le problème des investissements. Mais les investissements en numéro de chemin de fer, évidemment, ça demande un peu plus que ça. S'ils peuvent continuer sur cette lancée, ce sera un pas dans la bonne direction. C'est donc que nous demandons, c'est cette prise de conscience que nous avons pour que nous puissions comprendre que quel que soit ce qu'on peut dire dans le cadre de la complémentarité multimodale, le chemin de fer comme transport par excellence de masse continuera toujours à jouer son rôle et il faudra donc à tous les niveaux nous puissions être sensibles pour tout ce qui se passe, non pas comme spectateurs qui regardent mais comme acteurs. C'est pour ça que je parlais de ce forum. Je suis bien d'accord avec M. Lems Kamoniak que on a perdu beaucoup de temps avec tous ces forums-là, mais il faut que, quand on sent de nouvelles impulsions de la part de nouveaux acteurs, bon, il faut qu'on ait peut-être la même information pour que nous puissions faire tous le pas dans la même direction. Voilà.
Merci.
Un peu les mots que je pourrais dire.
Alors, une dernière question, très rapidement, M. Manyanga. Toutes ces victimes seront prises en charge par la SNCC?
Madame, je ne vous entends pas très bien. Si vous pouvez répondre
alors,
à la question.
Alors, j'ai demandé si toutes ces victimes vont être prises en charge par la SNCC.
J'ai dit ici que, aux premières heures de l'incident, il y a eu une action concertée, conjointe, au niveau de la province du Lualaba et la direction générale de la SNCC. Ici, nous devons profiter pour jeter quand même des fleurs pour la Madame la gouverneure de Lualaba et puis sa représentante Laté qui était sur place. Donc ils ont vraiment mené des actions qui étaient très appréciables et louables.
Et pour le reste,
nous ajoutons les actions d'appui aussi au niveau de la SNCC. Je crois que cette façon de travailler devrait créer des émules pour que les choses se passent de cette manière. Je peux vous assurer que c'est parce qu'il y a eu cette collaboration mutuelle que nous avions même évité plus que ce qu'on pourrait
Au revoir.
Merci Marc Manyanga, Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté qui l'a réalisé, Dona Madimba et Martha Zabujangwe m'ont aidé à préparer cette émission. Alain Goy était à la mise en onde, présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.